Alors, ce qui me gêne par rapport à Descola, c'est l'idée qu'il puisse utiliser le terme de singularité réductible pour ensuite dire composé. Je crois que votre formule, l'un se dit à partir du 2 qui se divise, montre que le 1 en tant que tel est indicible. Autrement dit, j'ai l'impression qu'il rabat une altérité radicale, celle que Classe repose, sur une variation qui est les différences. Enfin, je pense que si singularité il y a, c'est irréductible. Et que, j'ai l'impression qu'il bascule une logique de la singularité au sens irréductible, mais qui n'est pas la sienne, puisque ensuite il va dire, mais en fait on a des occurrences et qu'on ramène au 1, etc. Donc je crois qu'il y a quelque chose vraiment de très problématique qu'on peut retrouver dans d'autres domaines de la réflexion, etc. Et que si on veut penser la singularité, on ne peut pas, elle n'est que division. Elle n'est que division, donc on ne peut pas dire ce qui est divisé. Enfin, il me semble, c'est comme ça que j'interpréterais ce que vous dites dans votre proposition finale. L'un est indicible. Il ne s'appréhende qu'à travers les deux qui le disent.
Ouais.
Et à ce moment-là, ça me faisait penser à... Alors, on va quitter un peu l'espace... à ce qu'un philosophe historien russe, Mikhail Gefter, disait « Le monde des mondes ». Le monde des mondes, c'est un texte qu'il avait écrit il y a une quarantaine d'années, où il disait « Il ne ramenait pas la diversité des mondes. Le monde en tant que tel, c'est ce qui permet de dire qu'il y a des mondes. Mais c'est quelque chose qui est indicible. » Et autre... je m'arrête,
c'est
trop long. Mais si vous prenez le problème de la diversité infinie des langues, il y en a 10 000, 8 000, peu importe, elles sont toutes des manifestations singulières, irréductiblement singulières du langage, de l'activité du langage. Et le langage n'est pas dissible, On ne l'a qu'à travers ces manifestations. Je crois que si on veut tenir la singularité, on est obligé de dire que ce qui... c'est la division, et que la division, on n'a que la division, on n'a pas le...
Est-ce que vous pouvez donner le nom du penseur russe, là?
Gefter, G-U-E-F-T-E-R, Mikhail, Michel, si vous préférez. Voilà.
De toute façon, ce que vous dites là, ça va être au cœur de... ce qu'on va essayer de dire dans les prochaines séances. On va en reparler, donc c'est très intéressant. Puisque, comme je le disais, l'enjeu, ce sera la pensabilité du singulier. Donc, effectivement, d'où ça se pense, c'est toute la question.
Peut-être une petite...
Oui.
À un moment donné, quand tu interroges sur qu'est-ce qui se passe au passage de Classe à Descola, tu dis voilà le paradigme de la guerre, le paradigme du gouvernement, et pour Descola tu dis l'art du tissage. Et alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, mais j'ai le sentiment qu'avec Descola il y a quelque chose qui présuppose un multiple déjà là, alors que j'ai le sentiment que chez Clastre, la guerre est plus là pour fabriquer le multiple, conjurer le 1. D'ailleurs, tu dis à un moment donné, à plusieurs moments, tu dis que la guerre est un moyen qui permet de conjurer le 1. C'est-à-dire qu'elle est obsédée vers le retour au 1, la possibilité que le 1 l'emporte. Alors, j'ai l'impression que chez Descola, il y a la garantie du multiple déjà, qu'il n'y a jamais le risque, ou que c'est presque déjà donné, qu'il n'y aura jamais le retour au 1, qu'il n'y a pas la peur du 1 chez Descola. Peut-être qu'il est obsédé du coup, que là pour le coup, l'art du gouvernement, c'est, j'ai le sentiment, que là pour le coup, la question du paradigme du gouvernement va jouer la garantie du multiple. Mmh. Le paradigme de la guerre va jouer là où il y a justement le 1, l'appareil d'État justement qui vient unifier le retour au 1. Mmh. C'est un peu comme ça que je l'ai senti dans la manière dont tu décrivez ce passage de classe à des scolaires. Je voudrais savoir ce que tu en penses par rapport à ces retours. S'il y a obsession d'un côté du 1 chez classe et finalement garantie du multiple.
Déjà, c'est une approche beaucoup plus structurale d'Escola. Donc, ce qu'on peut dire, oui, c'est que le multiple est donné, mais il est en train de, il est menacé. Donc, le problème n'est pas de conjurer l'un, mais de trouver la bonne forme de l'un du multiple. Bon, c'est ça son problème. Donc c'est le problème de la composition des mondes, entendu, au sens où finalement ça le conduit au paradigme du gouvernement, et en l'occurrence à l'ère de l'Anthropocène, le paradigme du gouvernement, c'est la gouvernance mondiale. Voilà. Et effectivement, dans Clastres, le multiple à la fois n'est jamais, enfin, il n'est jamais donné, mais il se donne en permanence, quoi. Il se fabrique en permanence, d'où cette... Pour qu'il y ait du multiple, il faut qu'il y ait multiplication du multiple.
Et la guerre en est le moyen.
Dans le paradigme qu'il donne. Ça, c'est vraiment un texte sur le paradigme de la guerre pour penser la manière dont on peut se soustraire à l'État. Voilà. Finalement, c'est ça son propos filigrane.
Alors que chez l'Escola, j'ai l'impression que, d'une certaine manière, mes singularités sont déjà comme si elles étaient déjà soustraites, déjà engagées dans justement un multiple toujours à l'œuvre, c'est-à-dire, justement, quand tu dis ça ne s'accomplit jamais,
oui.
C'est toujours en train de se faire ce multiple, et qu'il faut juste, disons, les agencer en les respectant en plus, hein, chez les scolaires, il y a cette idée en faisant en sorte qu'elles soient garantes de ce multiple toujours à l'œuvre. Mmh. On a le sentiment qu'il y a une émancipation déjà un peu donnée quoi, chez les scolaires.
Oui, et ce serait une faiblesse.
Attends. Et ben je me demande si justement c'est pas là pourquoi l'usage du paradigme du gouvernement d'un côté et pourquoi l'usage du paradigme de la guerre de l'autre.
D'accord.
Si elles ne servaient pas les mêmes moyens, justement, et qu'elles étaient différentes aussi parce qu'elles engagent des situations différentes. C'est-à-dire, le paradigme de la guerre, il s'agit de se dire le multiple n'est pas donné, comment on produit le multiple d'une certaine manière. Alors que j'ai le sentiment que lorsqu'on considère que le multiple est donné, c'est un peu le cas de notre société aujourd'hui, le sentiment qu'un multiple est déjà donné, que ce n'est pas une question politique, la fabrication du multiple, alors c'est justement le paradigme du gouvernement qui viendrait peut-être là, c'est un sentiment. Et c'est ça qui se joue entre le clastre et les scolaires.
Et c'est un problème, oui, tout à fait, je comprends bien, oui, c'est tout à fait juste, je trouve, mais c'est aussi un problème parce que précisément, ces singularités, alors là, justement, déjà données en termes de collectifs de différents avec des ontologies différentes, c'est de moins en moins donné, justement. C'est bien ça dont parle Nastassia Martin aussi, me semble-t-il, hein, dans Les Hommes Sauvages, c'est que si on envisage, si on essaie de penser justement la singularité du collectif Gwich'in en Alaska, et ben justement, alors comment la penser ? On la pense justement à partir de sa fragilité. C'est-à-dire du fait que c'est en train de ne plus faire cosmologie, de ne plus être descriptible comme une cosmologie, comme une ontologie, comme une cosmologie unifiée. Il y a quelque chose qui se fragilise et qui fait que justement les catégories proposées par l'anthropologie ne fonctionnent plus. C'est ça qu'on peut en saisir. C'est par là qu'on peut saisir quelque chose du collectif Gwich'in. Donc ça, alors Descola, c'est pas qu'il soit... Pas d'accord, c'est qu'effectivement sa méthode ne lui permet pas de l'appréhender. Et ça a des conséquences politiques. Enfin, ça a des conséquences sur l'usage politique de son anthropologie, ce que met au jour son anthropologie.
Au moment où Descola, tu as dit que, enfin déjà je voulais te demander si ces quatre rapports entre les intériorités et les fiscalités, j'imagine qu'elles peuvent être simultanées, temporellement.
Simultanées dans un même collectif? Non.
Non, pas dans le même collectif, ouais. Mais tu disais du naturalisme qu'il naît à peu près au 18e et qu'il arrive aujourd'hui.
Aujourd'hui, il y a des collectifs de ces quatre titres, voilà. Pour lui, bien sûr. Oui, oui.
Et du coup, je voulais te demander si Descola identifie précisément, s'il périodise cette fin du naturalisme et pourquoi. C'est-à-dire. Tu as parlé du souhait d'un basculement vers une nouvelle forme, une forme renouvelée, oui, de l'anarchisme. Où est-ce qu'il situe temporellement cette fin du naturalisme?
Je pense qu'il ne le situe pas en termes de date. Enfin, je pense qu'il est, il dit que c'est ce que nous sommes en train de vivre. Alors, depuis quand? Il ne le dit pas, mais ça pourrait être depuis que depuis que ça devienne toujours plus évident les ravages planétaires de la disposition associée à ce qu'il appelle la disposition naturaliste. Qu'il y a comme on est comme face à la limite de cette disposition. Alors ça, les sources, on peut remonter je saurais pas dire quelle est la périodisation. C'est-à-dire ça rejoint les débats sur quand on situe la coupure dans l'anthropocène, etc.
Oui, justement.
Ça pourrait rejoindre ça. Mais en fait, c'est pas tant, par exemple, situer la coupure dans l'anthropocène avec la révolution industrielle, des choses comme ça. C'est parce que pour lui, c'est plus que le constat d'une impasse, c'est ce qu'on fait depuis quelques décennies seulement, finalement. C'est ce à quoi on est confronté, un constat auquel on ne peut échapper, une impasse qu'on ne peut pas ne pas la voir, d'après lui, depuis peut-être quelques décennies. C'est en cours, en tout cas. C'est ça qu'on peut dire. C'est en cours et... Et finalement, tous ces motifs là sur les mondes, la différence des mondes, c'est ce qui enregistre cette impasse face à laquelle on se trouve.
Mais pour que ça soit en cours, il faut une opération qui différencie la nature, parce que ce qui a en commun, si j'ai bien compris, entre le paradigme naturaliste et le paradigme analogiste, c'est il y a des différences d'intériorité, donc ça reste le même. Le changement, c'est qu'on passe d'une nature, d'une physicalité une, à une physicalité différenciée.
Oui, voilà, pas la nature.
Niveau forte.
Ouais, ouais.
Mais le programme de sciences dures continue, et toutes nos données sur le désastre écologique, à la fin, viennent des sciences dures. Donc, je pense qu'il est très optimiste pour... Il peut y avoir une espèce de juxtaposition de ces deux paradigmes-là, mais je ne vois pas du tout comment il peut préconiser ou même diagnostiquer un passement d'une paradigme à l'autre et dire que le paradigme analogiste est vraiment en train de prendre le dessus. Parce qu'il y a des solutions par rapport au changement climatique, il y a des solutions de... géo-ingénierie, par exemple, qui sont vraiment complètement dans le paradigme naturaliste.
Ah oui, tout à fait.
Et il y a des programmes qui disent, bon, si on peut envoyer nos déchets de guerre dans l'espace, si on pouvait envoyer tous nos déchets dans l'espace, alors quel problème pour la pollution?
Oui, oui.
Est-ce que c'est un problème moral? Parce qu'au niveau physique, au niveau logistique, on peut bien se régler ce problème si on reste dans le paradigme naturaliste. Mais j'avais deux remarques. Le premier, c'est précisément le mystère de cette connexion chez Descola entre la résistance des communautés indigènes contre le projet d'État et du capitalisme et la gouvernance analogiste mondiale qui préconise ou qui prédit. Et je pense que même si ça reste un mystère, même si la connexion entre les deux chez lui est complètement énigmatique, quand même, je pense qu'il a raison de voir une connexion là, et on va voir beaucoup de connexions entre ces deux éléments-là. Par exemple, moi j'étais choqué par resilience. Donc c'est un mot, je l'ai vu, j'ai le malheur de suivre Valls à Twitter en ce moment pour essayer de capturer le discours du gouvernement sur Calais et tout ça. Et lui, il parle de résilience. Donc lui, il valorise la résilience d'une communauté ou que ce soit. Il y a des universités et résilience, c'est un des trois termes clés qui résume l'idéologie, le slogan, la maxime de l'université. Mm. Il y a la présidente de mon université qui signe chaque courriel avec toi dans la lutte.
Avec quoi?
Avec yours in the struggle.
Avec,
avec vous dans la lutte. Mm. Mais c'est la présidente, mm. Hein, c'est pas le syndicat, c'est pas le syndicat. Donc, il va y avoir, je pense qu'on est en train de vivre surtout avec. Il va y avoir une espèce de grand risque, il va y avoir, si on prend de face le visage de l'ennemi, le grand risque, c'est qu'on va avoir une grande alliance dans laquelle tous les vaches sont noires, dans laquelle il n'y a plus de différence, parce qu'il y a beaucoup d'énergies qui vont être capturées par les oligarchies démocrates, etc., qui seront contre Trump, et tout le monde va parler de résilience et de lutte. Donc, on va lutter pour quoi? On va lutter pour retourner à l'ère Clinton, par exemple.
Oui, oui, c'est vrai.
Qui est un peu dangereux. La deuxième chose, sur la guerre aujourd'hui, je pense qu'il y a eu un changement dans la potentielle du paradigme de la guerre aujourd'hui. D'abord à cause de Syrie, à cause de l'éclatement de la Syrie et de l'Irak. Parce que là, surtout avec toute la couverture médiatique de la lutte des Kurdes, mm. On est en train de comprendre, c'est très très difficile pour nous, parce qu'on a une histoire de dualisme avec la guerre, mm. Mais on est en train de comprendre qu'on peut avoir une guerre avec 3, 4, 5 plus protagonistes. Mm. Et qu'il faut, pour comprendre ce qui se passe vraiment, mm. Et pour ne pas sombrer dans une espèce de contrainte machiavélienne entre Poutine et le gouvernement de Syrie, par exemple, il faut, à ça, il faut bien tenir en place tous les éléments de ce multiple-là. Donc on a ça dans la réalité, et on a ça aussi dans la télévision, parce qu'un des séries le plus vues, le plus commentées, c'est Trône de fer,
Game of Thrones.
Game of Thrones.
J'ai jamais vu ça.
Il y a 7 ou 8 protagonistes. Et c'est ça, non, c'est ça qui est nouveau. C'est pas la Seigneur des Anneaux où il y a les méchants et les bons.
Il y a beaucoup de protagonistes aussi. Ah. Hein, il y a beaucoup de protagonistes aussi dans le Seigneur des Anneaux.
Oui, dans le livre, mais ouais. pas dans le film. Le
d'accord.
Film, ça a été pris, bien
ah,
transformé
oui.
Dans le film américain. Mais là, en train de faire, qui est beaucoup plus nouveau que Tolkien, on a une multiplication des protagonistes. Donc je pense que c'est comme ça. Ça fait partie du pari de la difficulté de penser la guerre aujourd'hui, c'est qu'il y a un impératif de penser au-delà du deux.
Alors, est-ce que c'est au-delà du 2, c'est peut-être pas la même chose qu'au-delà de la division.
Oui.
Voilà.
Ou
la question est...
Être...
Oui, la division, de toute façon, ça peut nommer la 2.
Oui.
Et c'est intéressant, cet aspect-là, des choses, quand même aujourd'hui encore, malgré tout, je crois. Mais ça peut nommer l'éclatement. Mm-hmm. Justement, l'éclatement des protagonistes. Donc ça peut, c'est tout l'enjeu de situer le pluralisme aujourd'hui, situer la pluralité. Et une fois qu'on a dit l'un se pense depuis le deux, reste à savoir où est le plusieurs, quoi. Qu'est-ce qu'on en fait ? Enfin, où ça se pense ? Comment ça se pense ? D'où on le pense ? C'est par exemple ce que tu dis sur la Syrie, bon, c'est très exemplaire de ça, oui, en effet. Donc ça, c'est c'est en effet une question... Enfin voilà, c'est une question qu'on va essayer de. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on pense la division politique qu'on en évacue purement et simplement la question de la pluralité pour différentes raisons. À la fois aussi, même parce que malgré ce que tu dis sur la question de la résilience et comment finalement on peut il peut y avoir une sorte d'instrumentalisation oligarchique de la des oligarchies social-démocrates coutumières, bon, de lutte, de micro-lutte locale pour réinstaller finalement un état des choses un peu plus normalisé que celui qui apparaît avec les Trump et les gens comme ça. D'accord. Mais ceci dit, cette question, les questions que posent Descola ou Viveros de Castro sont importantes, c'est-à-dire la question de la place politique à un moment où les enjeux politiques sont nécessairement, ils le sont, on pourrait dire depuis deux siècles, hein, mais ils sont planétarisés, la place des collectifs qui ont, comme le dit Descola, d'autres ontologies, quoi. Comment on le pense, ça? Ça aussi, c'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas évacuer. C'est-à-dire que ce que tu dis est juste, hein, mais ça n'évacue pas entièrement la question. Non?
Oui, mais je pense que la question, est-ce que l'outil fait déjà dans les moments, est très important. Est-ce que tous ces mondes singuliers, je trouve que c'est très indicatif chez Object Oriented Ontology, par exemple, que tout et n'importe quoi peut faire un monde, et il y a une espèce d'hystérie de changement d'échelle chez ce monde de pensée. Donc, c'est-à-dire que le plus petit assemblage de deux objets, ça fait un monde, et aussi il peut y avoir un monde au niveau cosmos, de tout un système de technologie. Donc il y a toujours une espèce d'overlap entre...
Recouvrement.
Ce qui fait qu'on n'a pas le découpage du pluralisme classique où on a des atomes. Mais il me semble que le multiple, il est trop facilement déjà donné. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait des sous-ensembles, des ensembles qui sont... Il y a une fulguration des sous-ensembles, des ensembles. Et après, on n'a qu'à composer ensuite. Donc, de notre point de vue, c'est ici on dit qu'il faut saisir l'âme du monde à partir d'une vision politique. Peut-être ça c'est le cas parce qu'il y a une âme du monde qui est faux, qui est déjà imposée, et qu'on n'arrive pas à penser multiple précisément. Donc, on reste dans une multiple de l'apparence, pas de profondeur.
Est-ce que Descola n'aiderait pas quand même à penser ce multiple recouvert? Il me semble que c'est utile, hein, que c'est utile son livre, à certains points de vue, avec les limites de son postulat structuraliste, du caractère un peu obsessionnel du livre, où il s'agit de tout ranger, de ranger le monde entier, l'histoire humaine finalement, à travers quatre grandes ontologies. Il me semble que ça a une utilité. Et que, en fait, c'est ça qu'il réclame, lui, c'est que ça fasse voir d'autres types de dispositions. Alors, tout le problème, c'est que ça repose sur des bases qui, conceptuellement, ne me semblent pas défendables. Et ça, c'était un autre bout de ce que je voulais vous dire. Par exemple, sa notion d'intériorité, et justement l'analogie qui permet de passer de soi à l'autre, l'analogie que l'on fait, qu'on est censé faire dans une disposition très classique de philosophie de la conscience, c'est au fondement de son analyse, au fondement de son concept d'intériorité, et là il y a déjà un gros problème. Et il le reconnaît en plus, dans certains entretiens. Bon. Mais malgré tout, ça me semble utile. Ça me semble utile quand même. Mais bon, vous avez raison, enfin, là, c'est un vrai problème, quoi, la question du multiple déjà donné, de comment le faire apparaître, de qu'est-ce que c'est le multiple dont on voudrait parler au juste, de quelle pluralité, d'où la pensée. Enfin, oui, évidemment, c'est des questions très décisives. Oui.
Que j'ai cru au gouvernement de développer les raisons pour lesquelles il pensait qu'on était face à un nouvel analogisme, qu'on allait vers un nouvel analogisme, mais vous l'avez présenté aussi un peu récent comme de sa part à la fois une description et une affirmation que ce serait une bonne chose, que ce soit une intention normative.
Ouais.
En fait, je me demande si vous pouviez élaborer un peu là-dessus, parce que est-ce que c'est parce que si je comprends bien, il a commencé l'anthropologie, est-ce que c'est un genre de dissonance cognitive de quelqu'un qui a commencé par des terrains, ou est-ce que
non, non.
Parce que ça me semble autant il y a beaucoup de choses qui pourraient être questionnées. Est-ce que c'est en train de se passer ou pas? Je m'interroge beaucoup sur ce, par rapport au schéma de, oui, à l'énorme système qui nous présente. Je m'interroge beaucoup sur la désirabilité de ce. Donc, il me semble que vous l'avez un peu très brièvement abordé en le présentant comme un démocrate, mais alors, du coup, avec une sorte de conception de la démocratie comme cette volonté d'imposer un 1 à du multiple.
En tout cas, de considérer que le multiple, en tant qu'il serait en effet déjà là, répertorié dans la diversité des ontologies et des types de collectifs, devrait être garanti contre les dispositions naturalistes qui mènent à la catastrophe, par exemple celle de la géo-ingénierie, devrait être garanti par une forme par une instance gouvernementale mondiale, quoi. Mais ça veut dire que, en fait, le problème que je voulais situer dans, c'est que justement à la fois il fait un diagnostic, et ce diagnostic il le présente aussi comme un souhait, ce qu'il dit, hein, le à la fois le plus probable et le plus souhaitable. Et c'est là tout le problème.
Donc, après, ce désir d'unité, on pourrait dire, enfin, cet universalisme que vous semblez associer à la démocratie, en tout cas, ce besoin de pouvoir aussi le mettre du côté, je ne sais pas, de l'animisme, plutôt que.
Du côté de là
de l'animisme, dans le schéma qui nous présente en place, avec une intériorité qui serait une autre façon de proposer un.
Ah oui, alors. Alors c'est intéressant parce que c'est un débat, vous savez, sur entre anthropologues aujourd'hui, notamment. Tim Ingold, Baptiste Morisot, Morisot c'est sur l'éthologie, David Abraham, Viveros de Castro considèrent que justement notre pensée doit être renouvelée au contact de l'animisme. Bon. Et que donc il y a une sorte de révolution épistémologique qu'il faut faire justement en laissant contaminer les modes de pensée qui étaient les nôtres jusqu'ici, naturalistes, par les dispositions animistes. Quoi. Seulement pour Descola, vu le problème qu'il pose, ça ne peut pas faire paradigme. Parce qu'un collectif animiste est forcément un collectif restreint. Ça ne peut pas être un paradigme pour une gouvernance mondiale. C'est précisément parce qu'il pose cette question de la composition des mondes à l'échelle globale qu'il ne peut pas avoir comme paradigme la pensée animiste. Quoi. Parce qu'un collectif animiste est forcément... dans sa description, est forcément un collectif restreint, c'est-à-dire il est composé d'un nombre restreint de personnes. Il n'est pas fait pour, dans sa structuration même, et encore plus dans le totémisme, dans le rapport entre les clans, il n'est pas fait pour embrasser de vastes territoires et de vastes populations. Il n'est pas fait, c'est pas un jugement de valeur du tout, hein, de là de sa part, mais ça ne peut pas fonctionner. Alors, il montre un peu comment pourquoi les collectifs animistes, totémistes, fonctionnent justement comme des sortes de communautés autonomes qui donc ne peuvent pas être très étendues. Vous voyez, par opposition au collectif analogiste qui peut être envisagé comme un collectif aussi large que l'on voudra, dont tous les éléments seraient comme des segments avec des places différentes. Vous voyez.
Oui.
Non, c'est pour dire les deux. Hein, ni que ce soit totémisme.
C'est plutôt deux ensemble. C'est plutôt d'un côté analogisme naturalisme et de l'autre côté totémisme et animisme.
Voilà.
Il y a une grande sorte de division fondamentale entre ces deux grands genres.
Il y a une division à l'endroit de les collectifs totémistes, animistes dans les descriptions de Descola, mais aussi là de Clastres et des autres, sont forcément des communautés restreintes. Voilà. Alors que les collectifs. Ce qu'il appelle collectif, hein, donc il faut bien entendre, donc c'est ce qu'on a défini tout à l'heure, les collectifs naturalistes ou analogistes peuvent être très 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 vastes et même peuvent se penser à l'échelle globale, quoi, disons. Pas les premiers, voilà. Ça, c'est ça dépend de leur ontologie même, puisque c'est l'ontologie qui décide de tout pour lui, pour Descola. finalement, qui décide de tout, je veux dire par là, qui structure vraiment le rapport au monde. Avant. Oui, mais c'est aussi ce que j'aurais voulu montrer, c'est que précisément, il y a un embarras, me semble-t-il, qui lui fait à la fois dire que c'est souhaitable, à la fois dire que c'est souhaitable à condition que ce soit pas du tout que cet analogisme renouvelé soit pas du tout un analogisme au bout du compte. Enfin, il y a un embarras qui tient, à mon avis, à l'impasse qui est faite sur la question de la division politique. Voilà. C'est ça l'impasse, me semble-t-il, dans le travail de Descola. Et en même temps, il y a... Alors, bon, voilà, il y a toute une description, toute une grande classification obsessionnelle, un peu, il le dit lui-même, hein, de tout un grand rangement qui est particulièrement, je ne dis pas convaincant, parce qu'à cause des bases conceptuelles, mais qui a sa fécondité, me semble-t-il. Pour moi, il me semblait que c'était intéressant aussi pour notre séminaire-là d'élargir un peu le champ de vision, justement, et que ce passage-là par l'anthropologie de Descola, etc., nous permettait d'élargir le champ de vision pour justement pouvoir le reprendre de là où il nous laisse la question de l'un et du monde un, mais pour pouvoir resserrer après sur des questions plus directement politiques.
Une remarque, parce que singulier, si vous prenez singularité et pluralité, si on le rapporte à singulier et pluriel, c'est irréductible. La pluralité, elle est forcément variation, mais elle n'est absolument pas compatible avec la notion de singularité. Je crois qu'il y a vraiment une opposition, ce que je disais tout à l'heure. La notion de pluralité, elle est diversité, multitude, tout ce qu'on veut, mais c'est éliminer la singularité. Si vous prenez singulier et pluriel, en termes de catégorie grammaticale, le 1 est irréductible. Enfin, je crois qu'il y a vraiment une opposition et qu'on ne peut pas dire qu'il y a une pluralité de singularité. Ça, je crois que c'est contradictoire dans les termes. C'est pour ça que ça me gêne beaucoup qu'il parle de singularité réductible, ensuite de multitude, de composition, etc. Ça suppose qu'on est dans la pluralité, non plus dans la singularité. Thank you.